Radio Okapi.
Le journal, Pascal Masirika.
Les titres de l'actualité, vive tension à Kichanga et ses environs au lendemain de la prise de cette cité stratégique du Nord Kivu par les rebelles du M23 et leurs alliés. Le porte-parole des opérations Sokola 2 assure que les FARDC se réorganisent pour déloger l'ennemi. Le pape François est attendu mardi prochain en RDC, 37 ans après la visite du pape Jean-Paul II qui avait séjourné à Lubumbashi. Monseigneur Fulgence Muteba, archevêque métropolitain de la ville, en garde des bons souvenirs. Il nous en parle dans ce journal. Notre invité, c'est le porte-parole des opérations conjointes et FARDC armées ougandaises. Le lieutenant-colonel Mac Azuka y parlait des dispositions pour anticiper les attaques à la bombe piégée, comme celle survenue mercredi soir dans un moulin à farine au quartier Macampagne de Béni. Le bilan fait état des 18 blessés. Madame, messieurs, bonsoir. Au Nord Kivu, la situation reste tendue à Kichanga et ses environs au lendemain de la prise de cette cité par les rebelles du M23 et leurs alliés. Kichanga est située à plus ou moins 70 km au sud-ouest de la ville de Goma, dans les territoires de Masisi. Les sources concordantes dans la région contactées affirment que les détonations nourries à l'arme lourde sont entendues depuis ce vendredi matin vers le village de Burungu où ces rebelles ont délogé les FARDC. Après 3 jours de combat âpre. Le point de la situation avec vous, Alain Rungmouchinj.
Des tirs nourris à l'arme lourde sont entendus depuis ce matin dans les villages environnant la cité de Kichanga, plus exactement à Burungu. Ces tirs proviendraient des positions des FARDC qui se seraient retranchées non loin de ce village. Les sources officielles anonymes affirment que l'armée tente de réoccuper Burungu pour réorganiser les assauts sur la cité de Kichanga, où les rebelles du M23 ont mené une patrouille de ratissage cette nuit aux alentours de la cité ainsi qu'à la base de la MONUSCO. Après la chute de la cité de Kichanga hier aux environs de 18h locales, les rebelles auraient pris la direction de la cité Mueso où ils auraient installé leur dernière position à Ndondo, environ 1 km de Kichanga, confirment les sources anonymes dans le groupement de Bachali KMB. Actuellement, la cité s'est vidée de ses habitants. Prise de panique à l'entrée des rebelles, une partie de la population a trouvé refuge à la base de la MONUSCO, alors que d'autres habitants se sont dirigés vers Mueso Kashuga, Kalembe et les plus courageux ont gagné les villages sur l'axe Kichanga-Mpati. Sur d'autres fronts à Kibumba, dans le territoire de Niragongo, la situation reste calme. Et plus à l'est, vers Nyamilima, dans le territoire de Rutshuru, un calme précaire s'observe sur l'axe Kiwanja-Katwiguru, Kiseguru et Nyamilima, où les rebelles s'affrontent régulièrement aux groupes armés actifs dans cette zone. Pour l'instant, la ville de Goma est complètement coupée de la partie nord de la province, ce qui pourrait entraîner des conséquences socio-économiques néfaste sur la survie de la population de Goma.
Et dans une mise au point faite ce vendredi matin à la presse, le porte-parole du gouverneur du Nord Kivu et des opérations Sokola 2 parlait d'un repli tactique des forces armées pour protéger les populations civiles. Le lieutenant-colonel Guillaume Ndjike Kaiko assure que les FARDC sont en train de se réorganiser pour déloger l'ennemi. On l'écoute.
Cela fait 3 jours que l'armée rwandaise et ses différents alliés chercher à nous imposer une manœuvre en pleine cité de Kichanga en procédant à des tirs aveugles au mortier 120 et mortier 82, causant ainsi des morts parmi les populations civiles, des morts inutiles. Et les forces armées de la République démocratique du Congo, en tant qu'armée nationale, professionnelle et surtout respectueuse du droit international humanitaire, nous nous sommes tactiquement retirés en dehors de la cité de Kichanga afin d'attirer ces génocidaires en profondeur et ainsi éviter les pires à nos populations de Kichanga. Maintenant, nous mettons tout en œuvre pour déloger cet ennemi et le faire reculer d'où il est venu.
La ville de Goma, chef-lieu de la province du Nord Kivu isolée, des territoires de Rutshuru, Lubero, Beni et de la ville de Butembo, la route de Kichanga, la seule voie qui restait encore pour les usagers pour atteindre Goma, vient aussi d'être coupée. C'est suite aux affrontements qui opposent depuis plusieurs mois les FARDC aux rebelles du M23. Et du coup, la ville de Goma est coupée de cette partie. Explication de Grâce à Mouzadi.
Cela fait plus de 7 mois que le trafic routier Goma Kiwanja Butembo Beni est coupé. La voie secondaire, la seule d'ailleurs, celle de Kichanga dans les territoires des Massissi qui faisait la liaison pour les ravitaillements en produits alimentaires, vient d'être également coupée depuis plus de 3 jours maintenant. C'est la conséquence des affrontements entre les deux belligérants dans cette région. Et du coup, la ville de Goma reste totalement coupée et isolée de la partie nord de la province. Il s'observe déjà une hausse des prix des produits alimentaires sur les marchés. Goma n'étant plus approvisionné en haricots, maïs et autres produits cultivés localement. Inquiétude de l'association des chauffeurs du Congo ASECO Nord Kivu. Ses responsables parlent des conséquences néfastes sur la vie sociale des populations de Goma. Du reste, ils sont asphyxiés. Mais également, l'économie de la province qui est par terre. Ils appellent le gouvernement congolais à tout mettre en œuvre pour le rétablissement de la paix et de la sécurité.
Et puis, plus de 30 otages des rebelles ougandais de l'ADF sont libérés par les FARDC en une semaine dans les territoires de Mambasa. Le coordonnateur de la nouvelle société civile affirme que c'est pendant les opérations militaires menées la semaine dernière contre ces rebelles dans la forêt proche du village de Masiliko, dans la chefferie de Babila Mbakwanza. John Vuleverio indique que l'un des bastions de ces rebelles ougandais a été détruit par les FARDC. Il demande par conséquent au FARDC de maintenir la pression sur ces rebelles afin d'améliorer la sécurité dans la région. Il a été joint par Isaac Remoyope.
Hier, ils ont été présentés à 3 devant l'administrateur du territoire et la population de Mambasa. Il y avait un qui dit avoir déjà passé 2 mois avec les ADF et l'autre est de ceux-là qui ont été récupérés à 27 km sur la route Mambasa-Komanda depuis les week-ends derniers. À part les 3 cas, il y avait encore d'autres cas. Le samedi soir, une affaire de 24 qui ont été encore aussi récupérés des mains des ADF, toujours dans la même région au niveau de Masiliko. On voit que les otagés qui témoignent aussi bien qu'ils ont été pris par les ADF maintenant retournés vers leur famille régulière. Donc ça montre que réellement un travail a subi et en train d'être fait par les forces armées de la République. Les cas d'attaque ont baissé parce que les FARDC ont fait un effort de démanteler certains coins, certains cas là qu'ils étaient, qu'ils ont été saccagés de là qu'ils se trouvaient, à l'effet fort de la forêt de Babila Bakwanza.
Autre nouvelle sur Radio Okapi. Ainsi que vous le savez, le pape François est attendu mardi prochain en RDC, 34 ans après la visite du pape Jean-Paul II. Ce dernier était également arrivé à Lubumbashi où il avait dit la messe devant une foule immense. Monseigneur Fulgence Muteba, archevêque métropolitain de Lubumbashi, en garde de bons souvenirs. Il en parle au micro de Jean-Gandou Kabongo.
J'ai gardé principalement 2 souvenirs mémorables. D'abord, la joie et la fierté de la foi catholique. La présence du Saint-Père, en effet, avait réuni une foule innombrable, jamais vue à Lubumbashi, qu'elle nous a permis de mesurer la pertinence de la foi catholique. Ensuite, je garde le souvenir de la contagion de la foi du pape. Il est vrai qu'à l'époque, on est en 1985, j'étais encore jeune séminariste, mais en voyant le pape célébrer l'Eucharistie avec tant de ferveur et en écoutant sa voix, j'avais l'impression d'écouter le Christ et de voir le Christ lui-même. J'avoue que j'ai eu les mêmes sentiments quand, devenu évêque, j'ai assisté pour la première fois à une audience accordée par le Saint-Père à un groupe d'évêques dans le palais pontifical à Rome. C'est dire que la puissance de la foi de ce personnage est vraiment extraordinaire. Et ses souvenirs ne sont pas prêts à s'effacer de ma mémoire.
On passe maintenant au Maniema où les médecins de l'hôpital général de Kailo sont en grève depuis 5 jours. Ils réclament le départ de leur médecin directeur qu'ils accusent de mauvaise gestion. La société civile redoute des conséquences néfastes de cette grogne de médecins. À Kindu, la correspondance de Florence Kizalunga.
Ce mouvement de grève part d'une lettre que ces médecins, 7 au total, ont adressée au médecin directeur de cet hôpital demandant sa démission. Ils reprochent au docteur Douni Asakamba Doudou l'incompétence, la mésgestion et le détournement des fonds, chose que rejette l'incriminé. Ce dernier dit attendre la décision de sa hiérarchie. Entre-temps, la société civile Force Vive de Kailo Centre dénonce les effets négatifs de cette grève sur les malades. Selon Moutouza Jean, le président de cette structure citoyenne, aérienne, plusieurs malades sont abandonnés à leur triste sort. Contacté, le chef de division provinciale de la santé dit ne pas être au courant de ces mouvements de grève. Toutefois, le docteur Estache Bibala Farahi dit ne pas comprendre comment les médecins d'un hôpital vont demander la démission d'un médecin directeur. Il demande aux grévistes de s'adresser à leur hiérarchie pour qu'elles trouvent une solution s'il y a réellement un problème. Kindu. Florence Kizalunga, Radio Kapi.
En plus bref, au Kasaï oriental, l'hôpital général de Dipumba vient d'être cédé à l'université officielle de Mbujimayi. Du coup, cet hôpital général, jadis géré par la société minière de Bakwanga Miba, devient désormais la clinique universitaire. À cette occasion, le recteur, le corps académique et les étudiants ont marché ce vendredi à Mbujimayi pour saluer cette bonne nouvelle. Nous y reviendrons. À Bassankoussou, plus de 40 rescapés du naufrage du convoi motorisé Papi se disent aujourd'hui abandonnés à leur triste sort. Il y a aussi 3 orphelins dont les parents ont péri lors du drame. 10 jours après le drame, l'autorité territoriale qui les a accueillis ce vendredi s'est dit dépourvue de moyens. Ces rescapés ont appel à l'aide des autorités nationales et des humanitaires. Témoignage de Marthe Mpofona, SCC, qui s'est rendue aux soins médicaux à Mbandaka. Elle a été jointe par Paul Richard Malengela.
Nous avions quitté l'école jusqu'à la tangue à Dieu. On était là depuis 5 heures pour attendre un secours de transport, il n'y en a pas. Alors on a fait le tour du secours, on a quitté le précipice, que j'avais bien mis et on est retrouvé comme ça à Bassankou. Mais aujourd'hui, c'est le 10e jour, si je ne trouve pas aucune assistance sociale, il n'y a rien. Nous avons aussi besoin que le gouvernement puisse aussi tenir compte du secours du secours. Nous sommes là, on se retrouve juste 40 avec une fille. Il y en a encore, les petits enfants qui ont perdu leurs parents ne se retrouvent pas ici. Nous sommes abandonnés, aucune assistance. C'est malheureux. Nous avons besoin à manger, nous avons besoin d'habits, nous avons besoin de venir dormir, nous avons besoin de tous les enfants ont perdu leurs parents, mais ils peuvent même se retrouver pour faire des photocopies, tout ça. Nous voulons qu'il y ait le droit de l'homme, qu'il y ait quand même une enquête. Au moment où l'accident est survenu, pour voir comment les autres ont été enfermés. 4 à 5 personnes dans une fausse commune. Nous avons aussi besoin de donc, l'appui financier. Comment les centres commerçantes peuvent maintenant se débrouiller pour essayer un peu de soutenir les enfants. Donc nous sommes ici abandonnés.
J'ajoute que parmi les rescapés, il y a aussi des commerçants, des étudiants et un inspecteur de l'enseignement secondaire qui s'est rendu à son poste de travail à Makanza. Et pour la suite du journal, je vous propose d'aller maintenant dans les Kwango où les radios et télévisions n'émettront pas pendant 3 jours à dater de ce vendredi. Décision prise hier à Kenge par tous les journalistes de la ville. Ils dénoncent des arrestations arbitraires, des menaces et des intimidations dont ils sont victimes de la part des autorités politico-administratives de la province. Ils rappellent que leur confrère Olivier Makambu est en prison depuis 2 mois sans être jugé. Le président de la corporation UNPC plaide pour un environnement favorable à l'exercice du métier. Georges Kilumbu a été joint par Irène Moma.
Après avoir recensé les différents maux qui gênent l'exercice de la liberté de presse chez nous au Congo, il s'est avéré que depuis un certain temps, les journalistes sont devenus la cible de plusieurs humiliations de la part de certains pouvoirs politiques et publics. Nous avons même un confrère qui croupit encore en prison, aujourd'hui ça fait 2 mois. Et nous avons encore un qui vient d'un cachot et un autre qui n'est même pas ici à Kenge pour toutes ces raisons-là. Et pour répondre à ce traitement dégradant, l'UNPC qui accompagne les journalistes a décidé une période de 3 jours sans radio. Mais le message que nous voulons passer, les autorités politiques, administratives ou n'importe qui qu'il soit, reconnaître que nous sommes le 4e pouvoir. Et en étant 4e pouvoir, qu'ils nous laissent libres d'exercer notre métier. Et nous savons que quand nous exerçons notre métier, c'est avec l'éthique et la déontologie. Nous voulons qu'ils respectent en fait notre métier comme nous respectons les leurs. Qu'ils laissent d'enfreindre notre liberté, de ces intimidations que nous décrions et toutes ces menaces de différents ordres.
Actualité internationale. Au Burkina Faso, le capitaine Ibrahim Traoré, président de la transition, a lancé ce vendredi matin le Salon international de l'artisanat de Ouagadougou. Le CIO se tient sous le thème « Artisanat africain, levier de développement et facteur de résilience des populations locales ». Les participants viennent de 26 pays. Serge Poda, le ministre burkinabé de développement industriel, affirme que ces assises démontrent que son pays reste fréquentable, contrairement à certaines opinions émises. Ces derniers mois, Evgeny Prigojine, le patron du groupe paramilitaire russe, a proposé à plusieurs détenus africains en Russie d'être libérés et de voir leur peine annulée purement et simplement en échange de leur participation à la guerre en Ukraine. Depuis le début de cette guerre, au moins 3 ressortissants africains ont été enrôlés par Wagner. Leur arrivée est facilitée du coup par des partenariats historiques entre Moscou et plusieurs pays du continent.
L'invité.
Notre invité, c'est le porte-parole des opérations conjointes FARDC armée ougandaise, le lieutenant-colonel Mac Azoukai, parlait des dispositions à prendre pour anticiper les attaques à la bombe piégée comme celle survenue mercredi soir dans un moulin à farine au quartier Macampagne de la ville de Beni. Le bilan fait état des 18 blessés. Il s'entretient avec Martial Papimoukeba.
Colonel Mac Azoukai, bonjour.
Bonjour.
10 jours après l'attaque à la bombe à Kassindi-Loubiria, la ville de Beni vient d'être touchée par l'explosion d'une bombe artisanale au quartier Macampagne. Qu'est-ce qui justifie cette situation?
Vous vous souviendrez que il y a plusieurs années, nous avions sensibilisé les gens sur la menace ADF, qu'on a cherché à démontrer à la population qu'il s'agissait effectivement d'un mouvement terroriste qui avait fait allégeance au Daesh. Et aujourd'hui, les événements nous donnent raison. Quand vous parlez de la répétition de ces attentats, c'est consécutif aux tracts, les différentes tracts que nous sommes en train de faire dans cette forêt. Vous savez que nous avons réussi à restreindre le mouvement de l'ADF dans cette forêt. Avant, il circulait librement, il s'est livré à un tourisme criminel dans cette forêt. Avec les opérations conjointes FARDC et UPDF, nous avons réussi à restreindre ce mouvement, à l'obliger à se rendre. Suivez mon regard, depuis 4 mois, il y a une avalanche de redditions, une avalanche de délivrance des otages. Ça prouve que l'ennemi, effectivement, est en difficulté et comme il ne sait plus s'attaquer frontalement aux forces de la coalition, il a actionné ses kamikazes pour s'attaquer à la paisible population.
Mais au même moment, il s'observe la multiplication des attaques ADF dans certains villages du territoire de Beni.
Parce que moi je parle au nom de la coalition, il faut voir d'abord la cartographie. Les forces de la coalition ne sont pas dans tout le territoire de Beni et d'Irumu. Il y a une partie qui est là, qui nous a été délimitée, où nous faisons la manœuvre avec nos partenaires de l'UPDF. Nous avons réussi quand même à fixer l'ADF et il n'est pas très très actif dans cette partie-là. Parce que on a tous constaté que l'ennemi a migré vers l'Ouest qui échappe aux forces de la coalition.
À vous écouter parler, donc, dans la planification et la conduite des opérations, il y a des zones sous responsabilité de la force de la coalition FARDC-UPDF, mais aussi des zones sous la responsabilité uniquement des FARDC.
Nous œuvrons dans une zone qui a été délimitée par la hiérarchie. C'est dans cette zone-là que nous sommes actifs en tant que force de la coalition FARDC-UPDF.
Et à ces jours, quels sont les bastions importants des ADF qui sont déjà récupérés ou détruits par les armées congolaises et ougandaises une année après les lancements des opérations conjointes FARDC-UPDF?
Il est trop tôt de faire l'évaluation des opérations, donc nous sommes en train de travailler et le jour où nous allons nous réunir ensemble pour évaluer, on saura vous dire avec beaucoup de précision comment les choses ont évolué. Mais sinon, pour l'instant, comprenez que nous sommes très actifs et nous avons le contrôle de Mwalika, nous avons le contrôle de Rwenzori et nous avons le contrôle du sud du Rumu, c'est-à-dire Kainama, Boga, Tchabi, Borasi. Ce sont les zones où nous sommes en train de manœuvrer. Vous comprendrez que dans cette zone-là, il y a une accalmie. Même si nous ne sommes pas venus chercher une accalmie, la mission, c'est d'éradiquer le phénomène ADF.
Qu'est-ce que vous conseillez à la population de Béni pendant cette période où il s'observe des explosions, des bombes artisanales ou des bombes piégées dans la région?
Nous devons nous prendre en charge. C'est ce que je dirais à la population. Se prendre en charge, c'est pas nécessairement prendre les armes. C'est-à-dire que nous devons nous surveiller mutuellement, nous devons nous contrôler. Par exemple, éviter des attroupements dans des endroits qui ne sont pas sécurisés. Vous savez, un seul terroriste vivant est une menace. Ce que je conseillerais à la population, c'est d'être prudente. Par exemple, de ne pas transporter des colis dont ils ne connaissent pas le contenu et le propriétaire. Éviter de vendre des batteries, des petites batteries, de motos à des personnes que vous ne connaissez pas. Parce que ce sont ces accessoires-là qui servent pour la fabrication des bombes. Donc ces petites mesures-là, si nous les observons, ça peut nous aider à nous sécuriser.
Colonel Mac Azoukai, merci.
C'est à moi de vous remercier.
C'était l'invité de Radio Okapi, le porte-parole des opérations conjointes FARDC armée ougandaise. Le lieutenant-colonel Mac Azoukai était interviewé par Martial et Papi Moukeba. Et c'est la fin de cette édition. Merci d'avoir écouté. Merci infiniment à Richard Junior Kamunga qui l'a coordonné sous la supervision éditoriale de Pelle Kipela Mondo.